Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Le taux du livret A doit repasser au-dessus de la barre des 3%. Ce sera effectif à la fin du mois. Un coup de pouce bienvenu pour cette épargne populaire. L'Info C'est Clair est intitulé Livret A, immobilier, bourse, quelle épargne en 2023 ? Nos invités, Jean-Marc Daniel, vous êtes économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School, auteur de l'histoire de l'économie mondiale, c'est chez Talendier, et ça vient de sortir en poche. Delphine Pasquier, vous êtes directrice du développement de Préparvie Assurance à la Bred. Et Marie-Christine Sonquin, vous êtes rédactrice en chef patrimoine aux Échos, à lire dans les Échos aujourd'hui cet article intitulé « Vers un taux du livret A à 3% ». Eh bien, un taux du livret A à 3%. C'est donc une bonne nouvelle qui se prépare pour cette épargne populaire. Le taux est aujourd'hui à 2%. Il devrait donc passer peut-être même au-dessus des 3% le 1er février prochain. C'est un sujet de Florence Griffon et Jean-Michel Mière.
C'est le placement favori des Français, le livret A. 8 Français sur 10 en possèdent. Comme cette mère de famille qui se réjouit, le taux du livret pourrait être porté à 3,3% en février prochain. Aujourd'hui, elle a épargné environ 7 500 euros sur son compte. Ce taux revalorisé, ce serait pour elle un gain de presque 100 euros.
C'est une bonne nouvelle. Le livret A, c'est mon épargne de sécurité à laver pour le quotidien, c'est-à-dire si demain, ma machine à laver ne marche plus ou si j'ai un pépin avec ma voiture, ce qui m'est arrivé en 2022, j'ai cet argent et je n'ai pas besoin d'aller piocher dans mon salaire tous les mois.
Le taux du livret A est fixé selon une formule qui combine taux d'intérêt et inflation. Comme les prix ne cessent d'augmenter, voici le résultat. Le taux était à 0,5% en janvier 2022, puis 1% en février, 2% en août et donc bientôt 3,3%. Bercy pourrait le confirmer prochainement. Mais hélas, ces revalorisations seront insuffisantes pour compenser l'inflation, qui, elle, a atteint 6,2% l'année dernière.
Alors Jean-Marc Daniel, c'est vrai que les taux d'intérêt remontent, on ne cesse de le dire. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui empruntent, quand on n'a pas l'argent et qu'on veut en emprunter. Mais en revanche, c'est une bonne nouvelle quand on a un petit pécule, parce que justement, là, on voit, mes économies vont être rémunérées à 3%.
Oui, l'épargnant qui a été quand même le grand sacrifié des 10 dernières années est en train de revenir en force. Et donc, en plus, sur le livret A, c'est de l'épargne populaire. C'est vraiment... Alors, il y a un plafond à 23 000 euros. Il y a quand même beaucoup de gens des classes moyennes ou des classes supérieures qui ont un livret A. Tout le monde a un livret A ou prend un livret A pour ses enfants. C'est un placement assez traditionnel. Mais on l'a vu dans le reportage, c'est vraiment de l'épargne populaire. C'est la forme à la fois la plus accessible, la plus garantie, les gens sont rassurés par le livret A, la plus facile à débloquer quand vous voulez retirer de l'argent sur votre livret A. Maintenant, vous pouvez même le faire sur des distributeurs automatiques de billets. Donc, ça a de multiples avantages. Le grand débat qu'il y a quand vous regardez les positions de Bercy ou de la Banque de France, c'est est-ce qu'on a intérêt à augmenter le plafond ou est-ce qu'on a intérêt à forcer un peu les taux d'intérêt pour que les gens qui ne sont pas au plafond atteignent le plafond. Je rappelle que François Hollande avait dit, moi, je vais plutôt augmenter le plafond en maintenant des taux d'intérêt.
Parce que c'est beaucoup, c'est près de 23 000 euros par livret A. Donc si on est une famille, on est 4, ça fait 4 livrets A, qu'on peut mettre 80 000 euros. Quoi. 4 fois 22 000, plus de, près de 80
oui,
000 euros.
Oui, et alors en plus maintenant, il y a des livrets qui sont des livrets associés, qui sont de la même nature, des livrets donc sur des développements durables. Et le ministre a annoncé qu'on allait faire de nouveau un autre livret, qui serait un livret servant à financer
la transition écologique.
La transition écologique qui serait un peu calée sur le livret A. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la petite épargne populaire et que les gens qui disent « Oui, mais vous savez, l'inflation est de 6%, donc de toute façon, derrière tout ça, il y a
que l'affichage. » C'est vrai qu'on est perdant quand même.
On est perdant, sauf que l'inflation...
Parce que 100 euros l'année prochaine, ça vaudra 106 euros. Eh bien, moi, mon livret A, il ne m'aura fait que 103. Donc, il me manquera 3 euros pour faire la maille.
Voilà. Et alors, ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que cette inflation, elle se porte quand même sur les produits de consommation courante, qui sont les produits, justement, qui sont les plus lourds dans le panier de la ménagère des gens qui ont un livret A. Donc, on en revient à cette question. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu donner un petit coup de pouce un peu plus important à ce livret A ? Moi, j'étais favorable à ça, mais enfin, 3,3%, c'est quand même assez intéressant. Sur une année, quand vous avez un livret A rempli, ça fait 750 euros de...
3% de
3,3% de 22 000 euros, ça fait un peu plus de
700 euros. Ouais, on a
un peu plus de 750 euros.
Ouais, ça met du beurre dans les épinards. Delphine Pasquier, vous vendez de l'assurance vie, mais en privé, à Noël, quand on vous a demandé des conseils, vous avez dit oui, ouvre un livret A, c'est quand même très pratique. On a vu la dame, elle, en cas de coup dur, paf, elle peut mobiliser de l'argent pour réparer sa machine à laver.
Exactement. Le livret A reste le principal, la première épargne à constituer, parce que c'est une épargne de précaution, extrêmement disponible, comme vous l'avez indiqué. Voilà, vraiment la première épargne de précaution. Bien entendu, en présence d'une inflation comme on la connaît aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Et quand on veut effectivement investir sur le long terme, eh bien on va aller vers d'autres types de placements qui peuvent être les placements en obligations, en actions, en immobilier.
Mais qui sont moins liquides, comme vous dites. C'est-à-dire qu'on peut moins immédiatement récupérer son argent.
Oui, bien sûr, qui sont moins liquides, mais qui vont permettre de capitaliser sur le long terme dans des conditions quand même relativement intéressantes.
On va en parler. Marie-Christine Sonquin, j'ai lu Les Échos ce matin, votre journal, et on y apprend que François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, dit « En fait, si on appliquait la formule, le taux du livret A devrait passer à 3,3. » Mais il dit, je le cite hein, dans Les Échos, il faut trouver un juste équilibre entre la rémunération de l'épargne populaire et la préservation d'un coût de financement raisonnable de notre économie, dont le logement social en particulier. Parce qu'en fait, qui nous donne cet argent du livret A, il sert à financer les HLM, c'est ça?
Oui, alors effectivement, c'est à double tranchant, parce que quand on offre une rémunération très importante du livret A, eh ben, ça renchérit
qui paye
les coûts. Eh ben, in fine, c'est toujours nous qui payons, parce que de toute façon, tout ça est un grand bloc, et le logement social, il faut bien le financer. Donc, si ce n'est pas financé...
Alors, quand je mets 100 euros dans mon livret A, ces 100 euros, ils sont utilisés pour fabriquer des HLM derrière, mais alors, le HLM...
Oui, non, mais c'est pas si simple que ça. Donc, il y a des répartitions qui sont faites. Voilà. Mais c'est toujours évidemment une décision extrêmement politique, parce que quand vous renchérissez le coût du logement social, on voit bien qu'actuellement, c'est très difficile de se loger, que les loyers augmentent. D'ailleurs, le gouvernement a été obligé de mettre une barre, de mettre une limite justement à l'indice de revalorisation des loyers, qui aurait dû être beaucoup plus important, puisque celui-ci est normalement indexé sur l'inflation. Il aurait dû être de 6%. Il a mis une barre à 3,5%. Donc, on voit bien que cette inflation, elle est problématique, parce qu'il y a des effets en cascade. Alors, là, on se réjouit parce que effectivement, le petit épargne.
Quand on a de l'argent, il est mieux rémunéré. Mais voilà. Comme cet argent, on le prête aux HLM. Les HLM, ils disent ah bah moi, avant, je l'avais gratuitement, l'argent. Maintenant, je vais devoir donner vos 3,3% pour vous payer.
Il faut raisonner de façon totalement différente. Pendant des années et des années, on avait des taux qui étaient quasiment à zéro. Donc, c'était extrêmement intéressant pour acheter, notamment de l'immobilier. Aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme qui fait que l'argent recommence à rapporter quelque chose, moins que l'inflation, donc il ne faut quand même pas se réjouir trop vite. Mais il y a des effets pervers, effectivement, parce que tout est plus cher. Et pour se loger, justement, ça devient beaucoup plus problématique.
Jean-Marc, Daniel, quand même, le livret A, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est un peu Robin des Bois à l'envers? C'est-à-dire que ce sont les HLM, ceux qui n'ont pas peu, qui sont les plus modestes, qui donnent de l'argent, qui rémunèrent ceux qui ont un petit pécule, c'est-à-dire les épargnants.
Les épargnants, et qui plus est, effectivement, alors dans la logique de Robin des Bois à l'envers, non seulement c'est dans les épargnants, il n'y a pas que les classes populaires, tout le monde, encore une fois, un livret A, et en plus, je rappelle que les intérêts sont défiscalisés.
Ah oui, donc, on ne paye pas d'impôts hein, sur ce qu'on gagne.
Et donc, effectivement, quand vous êtes dans les classes les moins favorisées, de toute façon, vous ne payez pas d'impôts sur le revenu, donc vous n'êtes pas concerné. Mais en revanche, quand vous êtes dans les gens qui ont des revenus assez confortables, bah, c'est un petit pécule, c'est une forme de satisfaction intellectuelle de ne pas payer d'impôts sur ces 750 à 800 euros. Mais effectivement, des enjeux, et on l'a dit, c'est-à-dire que si on veut diversifier ces produits d'épargne, c'est-à-dire qu'il y a une capacité à générer de l'épargne populaire qui est assez importante, et forcément l'utilisation exclusive vers le logement social qui correspond à une période de l'histoire du pays, c'est-à-dire que le livret A, il existe depuis 1818.
Depuis 200 ans.
Oui, 200 ans, depuis la création.
C'était pour payer les les dettes napoléoniennes.
Exactement. Hein, donc ça avait été au départ, ça avait été créé pour payer les indemnités que l'on devait aux Alliés après la défaite de Napoléon. Puis ensuite, ça a été utilisé. Le grand choc, ça a été le financement du port de Dunkerque par le livret A. Et c'était un événement qui avait été... Même le roi avait salué ça. Et donc, au fur et à mesure que le temps passe, on se pose la question de savoir vers où on va orienter...
Cet argent collecté.
Et donc, c'est vrai qu'il y a des besoins en termes de logements sociaux, mais le ministre le dit, encore une fois, l'urgence aussi, c'est quand même la transition écologique. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à repenser tous ces produits d'épargne populaire, à la limite à en faire un seul produit, avec un objectif qui est un objectif qui est, dans l'utilisation, qui est beaucoup moins calibré.
D'où l'idée de création de ce nouveau livret, effectivement, qui serait davantage
pour financer la transition écologique. Alors, Delphine Pasquier, c'est vrai que le livret A, il rapportait rien du tout. Il rapportait 0,5% il y a un an. Alors vous, vous aviez beau jeu de dire, mettez votre argent en assurance vie. L'assurance vie, c'est quoi? C'est 2%?
À l'heure actuelle, les taux qui sont annoncés, effectivement, se rapprochent de 2% concernant
le fonds
euro.
Alors là, vous êtes battu à plate couture par le livret A, là.
C'est vrai, mais la logique n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'un livret A, encore une fois, c'est de l'épargne disponible immédiatement, sans aucune fiscalité, et avec des taux qui sont réglementés, qui sont revus à échéance fixe et calculés d'après, effectivement, l'augmentation des taux des emprunts, etc. Un fonds en euros au sein d'une enveloppe assurance-vie...
Alors, fonds en euros, c'est-à-dire que l'assurance-vie est placée en bon du trésor, en obligation d'État.
Alors... En obligation de manière générale, en obligation d'État, effectivement, historiquement, c'était majoritairement en obligation d'État. De plus en plus, les fonds en euros des compagnies d'assurance ont tendance à se diversifier, et notamment vers des obligations d'entreprise, ce qui va permettre d'aller chercher un rendement obligataire un petit peu plus conséquent.
C'est-à-dire qu'on prête non plus à l'État français, mais on prête à Danone, on prête à Carrefour, etc., qui paye un peu mieux que l'État.
Exactement. Hein ? Donc, on prête à l'État français, mais on prête aussi aux États des autres États européens.
Alors, pendant très longtemps, on sait que vous, l'assurance vie, il faut rappeler, c'est le premier, c'est ce qu'il y a de plus important, hein, bien plus que le livret A.
Tout à fait. Et le placement préféré des Français.
1 600 milliards, alors que là, c'est 3 ou 4 fois le livret A, en termes de masse. Vous avez dit, les taux sont tellement bas qu'il faut arrêter de mettre l'assurance vie dans les produits, dans les emprunts d'État. Il faut le mettre en bourse. On appelle ça les unités de compte, hein, c'est ça? Parce que vous dites pas bourse parce que ça fait peur aux gens?
Alors, ce sont pas les termes usités, on va dire, en matière d'assurance-vie. Effectivement, une unité de compte, finalement, ça correspond à un OPCVM, un organisme de placement collectif en valeur mobilière. C'est une SICAV ou un fonds commun de placement.
Donc, comme M. Jourdain, quand je mets mon assurance-vie en unité de compte, je fais de la bourse sans le savoir. Vous diriez ça?
Sans le savoir, on le sait quand même un petit peu.
Et on est quand même investi. Parce qu'il y a des unités de compte immobilières aussi.
Ah là, alors voilà. Mais on n'est plus sur des bons du trésor, on est sur
de la diversification.
Oui,
oui. Exactement.
Et alors la bourse, on va regarder le CAC 40 sur un an, moins 4%.
Oui.
Alors vous dites quoi aux gens qui ont perdu il y a des gens qui viennent vous voir en disant dites donc, vous m'avez fait basculer mon assurance vie en bourse, je suis pas très content.
Alors il y a le CAC 40. Mais la bourse n'est pas que le CAC 40. Et dans le CAC 40, il y a des valeurs, effectivement, qui ont fortement subi les variations des marchés financiers et d'autres qui sont plus résilientes en fonction d'un contexte, et notamment d'un contexte inflationniste. On sait, par exemple, que les valeurs bancaires s'en sortent plutôt bien en période d'inflation. Et toutes les sociétés, toutes les entreprises qui peuvent ajuster, finalement, leur prix de vente à l'augmentation du coût de revient, et donc qui ne diminuent pas en termes de chiffre d'affaires, sont également résilientes.
Marie-Christine Sonquin, on a beaucoup dit que avec l'envolée de la bourse ces dernières années, il y avait eu un regain d'intérêt de la part des Français pour la bourse. Je me souviens, il y a eu quelques articles en disant... Les Français redécouvrent, et les plus jeunes d'ailleurs.
Oui, c'est tout à fait vrai, notamment pendant la période Covid, parce que les gens se sont retrouvés coincés chez eux, derrière leur ordinateur, notamment les jeunes, il a bien fallu qu'ils s'occupent, et ils se sont dit, ah tiens, la bourse, c'est rigolo, on va commencer à s'intéresser à ça. Et alors, ce qui est particulièrement intéressant, justement, c'est qu'ils sont revenus à la bourse à une période où la bourse a complètement dégringolé, ce qui est très vertueux, parce que normalement, le comportement est complètement inverse. On regarde toujours dans le rétroviseur, et on arrive en bourse une fois que les cours sont au plus haut. Là, chance, ils sont arrivés, ils se sont dit, la bourse a dégringolé, ça a l'air intéressant, on y va. Alors ils sont arrivés en masse, notamment les jeunes, pas forcément pour des montants très importants. Et puis après, divine surprise, après la période Covid, la bourse s'est remise à remonter en flèche, à rebondir. Alors tout le monde avait le sourire jusqu'aux oreilles. Et en 2022, même si madame a expliqué que certaines, à juste titre, que certaines valeurs sont mieux sorties que d'autres, on peut dire que quand même, globalement, en bourse, ça a été un peu une anus horribilis et que les gens se sont aperçus qu'en bourse, on ne gagnait pas à tous les coups et qu'il fallait quand même investir sur le long terme et être patient pour obtenir un rendement satisfaisant parce que on le dit toujours, et c'est d'ailleurs vrai, les actions, c'est quand même l'actif le plus rentable sur le long terme.
Voilà. Alors, vous parliez,
il ne faut pas regarder juste
l'année passée. Vous parliez de spéculation parce que les jeunes sont arrivés en bourse et plutôt que d'acheter comme nos parents ou nos grands-parents du Air Liquide ou du Danone, etc., ils sont allés vers des valeurs plus sexy comme Tesla. Tesla qui a valu plus de 1000 milliards et qui a connu une anus horribili, une année terrible. Je vous propose qu'on regarde ce sujet sur le retournement de l'action Tesla, qui a perdu quand même plus de 70% en un an. Hein. Donc vous rendez compte, vos économies, vous perdez les trois quarts. Hein. Loïc Delamornay, Thomas Donzel.
Depuis plus d'une décennie, il est une icône des temps modernes, un Tony Stark en chair et en os, du nom de l'inventeur génial et multimilliardaire de la série des films Iron Man. Mais depuis son rachat surpayé de Twitter et ses nombreuses polémiques politiques, Elon Musk est tombé de son piédestal, entraînant dans sa chute le cœur historique de son succès, Tesla. Certes, l'action de la marque automobile électrique a grimpé depuis 5 ans, mais sur l'année 2022, c'est un plongeon, moins 72%, une chute record. La conjoncture n'a pas aidé Tesla. Fermeture de sa méga-usine en Chine à cause du Covid, hausse des taux d'intérêt aux États-Unis sur fond d'inflation. Mais l'image de la marque a été très abîmée par les comportements de son fondateur.
Pour la bourse de Wall Street, Elon Musk est passé de super-héros hier à super-vilain aujourd'hui. Quand on vend un produit au grand public, la dernière chose à faire est d'y mettre une dimension politique. Elon Musk s'est aliéné 50% des acheteurs potentiels, notamment ceux de gauche démocrate, son cœur de clientèle.
Ambiguïté sur l'Ukraine, soutien à Donald Trump ou à des figures de l'extrême droite. À chaque fois qu'Elon Musk se lâche sur Twitter, l'action Tesla dégringole. Quand il a annoncé bannir de Twitter des journalistes qui lui avaient déplu, le jour d'après, l'action Tesla chute encore de 4%. De grands investisseurs s'inquiètent publiquement.
Réveillez-vous au conseil d'administration de Tesla. Qui dirige Tesla ? Et quand Elon revient-il travailler ?
Dans une rare interview sur un podcast, Elon Musk a semblé reconnaître des ratés.
Au début, quand on rachète une boîte, on fait bien sûr plus d'erreurs. Écoutez les gars, je viens juste d'arriver.
Et Tesla a d'autres défis à régler, notamment améliorer son système de conduite autonome. Il y a un mois, une voiture s'est emballée en Chine, fauchant deux personnes dans sa course incontrôlée.
C'est incroyable ça, Jean-Marc Daniel, donc Tesla moins 70%. Elon Musk, qui passait pour un génie, est apparu à la faveur de cette histoire de Twitter comme un patron colérique et inconséquent.
Oui, c'est un des enjeux du monde moderne, c'est que la communication autour du PDG, de l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur qui est systématiquement désormais qualifié de schumpeterien, qui est un personnage autour duquel on va créer des mythes. Donc toute cette communication autour de l'entrepreneur, à la fois va créer une très grande volatilité, c'est-à-dire ça peut monter très vite en disant cet individu est un génie, et ça peut descendre très vite en disant en fait c'est un imposteur. Et à la fois ça va également inciter les entreprises à essayer de coller à l'image du personnage, c'est-à-dire que Tesla, c'est Elon Musk, et donc derrière, toutes les équipes sont mobilisées sur il faut faire moderne, il faut boire du Coca-Cola, mais il faut faire en sorte que la voiture fonctionne correctement, et donc il y a une espèce de focalisation sur la personnalité qui va orienter le mode de management de l'entreprise. Alors par rapport à ça, quand même, sur la bourse, on voit bien, le CAC va atteindre 7000, là on est aux alentours de 7000.
Ce qui n'est pas loin de ses records historiques.
Ce qui n'est pas loin de ses records historiques, en 2008-2009, après la récession et la crise financière, on était descendu en dessous de 4000. Et à l'origine, il y a une quarantaine d'années, à la fin des années
40. On a le graphe du CAC 40.
Voilà. On était à 1000. Ouais. Et donc, vous regardez, le CAC a quand même fait mieux que les prix. C'est-à-dire que
il est passé de 1000 à 7000. Il a fait x7 en 88.
Depuis 88. Et donc, les prix ont fait x5 à peu près sur cette période-là. Donc, on est plutôt dans une période qui est une période. C'est plutôt un bon placement. Mais il faut être patient et il faut accepter les foucades des PDG. Alors la forme ultime quand même de la technologie, de la fascination pour des objets bizarres et tout ça, ça a été l'affaire des crypto-monnaies. C'est-à-dire les gens,
ah, le Bitcoin.
Les gens qui sont engagés.
On a la courbe du Bitcoin. Hein. Elle est dramatique, la courbe du Bitcoin.
Elle est spectaculaire. Je ne sais pas si elle est dramatique parce qu'elle est montée à 64 000. Elle est montée à 64 000 dollars et puis maintenant on est aux alentours de
16 000.
16 000, 17 000 dollars.
Ça veut dire qu'on a perdu les trois quarts de ce qu'on avait placé, quoi.
Absolument.
On avait 1 000 euros, on n'a plus que 250.
Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y en a qui ont réussi à vendre à 64 000 dollars? Parce que autant il est facile de quitter un livret A, de retirer son argent dans le livret A, quand on vous annonçait que vous étiez à 64 000 dollars sur le Bitcoin, il y a beaucoup de gens qui ont essayé à ce moment-là de se dire, mon Dieu, c'est le moment de... Et qui ont eu du mal à réaliser ça. Donc c'est fascinant, technologiquement encore mieux que Tesla et que Elon Musk, mais ça a été extrêmement dangereux.
Delphine, parce qu'il faut quand même avoir... Alors vous achetez des actions, vous en faites des paniers, puis vous les proposer à vos clients. Il faut avoir le cœur bien accroché. On va regarder ces fameuses nouvelles technologies parce qu'on se dit, bah, tiens, je vais investir dans les nouvelles technologies, c'est l'avenir. Alphabet, c'est Google, moins 36% sur un an. Amazon, moins 48%. Meta, c'est parce qu'ils ont tous changé de nom. Hein. Meta, c'est Facebook, moins 61%. Et Tesla, moins 69%, on l'a dit.
Tout à fait.
Alors il faut pas y aller dans c'est trop spéculatif, comme on dit, ces valeurs de nouvelles technologies.
C'est très spéculatif, effectivement. On ne dit pas qu'il ne faut pas y aller, mais on y va progressivement. Quand on ne connaît pas très bien les valeurs actions, hein, quelles qu'elles soient, l'idée, c'est faire des investissements progressifs pour déjà lisser les points d'entrée. Souvent, quand on parle beaucoup d'une valeur dans la presse, effectivement, on est dans un monde très, très fluide en matière de communication. Ça attire l'intérêt des investisseurs. Et donc, le risque, c'est de se positionner peut-être un petit peu tard.
On va être le dindon de la farce qui achète au plus cher.
Exactement. Par rapport au potentiel qui avait été identifié et dont tout le monde a parlé dans la presse. Donc, voilà, c'est trouver le bon timing. Regarder avec ces intérêts qui sont effectivement, ces actions qui sont très créatrices de valeur. Mais trouver aussi le bon timing pour pouvoir se positionner.
Jean-Marc Daniel, c'est quoi cette histoire? C'était qui ce milliardaire qui dit quand mon cireur de chaussures m'a parlé de la bourse, je me suis dit, oh là là, c'est que tout le monde s'y intéresse, c'est le moment de vendre. C'était pas Rockefeller?
Non, c'était J.P. Morgan.
J.P. Morgan,
qui disait ça. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que aussi dans les produits, on voit les entreprises qui distribuent des dividendes. Et donc, vous pouvez être intéressé à avoir de l'argent immédiatement.
Acheter une action, non pas pour spéculer, pour la voir monter, mais pour le dividende.
En revenu assez régulier, vous parliez d'Air Liquide. Un des atouts des vieilles entreprises comme Air Liquide, c'est de distribuer régulièrement des dividendes. Et donc, on a un revenu. De même sur les obligations maintenant. Autrefois, on se disait, une obligation, vous avez un intérêt qui tombe tous les ans. Maintenant, on voit de plus en plus apparaître ce qu'on appelle des coupons zéro. C'est-à-dire, vous prêtez, et puis on vous dit, il ne va rien se passer pendant 10 ans, et dans 10 ans, on vous remboursera ce que vous avez prêté, plus la somme des intérêts qu'on aura calculé. Donc, pendant 10 ans, il ne se passe rien, mais dans 10 ans, vous êtes sûr d'avoir une sorte de gros paquet, vous avez votre capital d'origine, plus les intérêts. Donc, quand on se positionne sur ce type de produit, il faut aussi regarder quel est le fonctionnement
que ça rapporte chaque année.
C'est l'inverse de la spéculation.
Ouais, parce qu'on n'achète pas une action pour qu'elle monte, on achète une action pour le dividende qu'elle donne chaque année. C'est ça la logique normale.
Normalement, hein. Oui.
C'est une bonne logique, c'est l'inverse de la spéculation. Quand on achète pour spéculer, en général, ce n'est pas une bonne idée, on se fait avoir, c'est trop volatile. On a fait une étude récemment aux Échos sur les valeurs qui avaient été le plus tradées en 2022. Alors c'est vrai qu'il y avait...
Le plus acheté et vendu.
Voilà, des grosses valeurs comme Total, par exemple. Mais il y avait une valeur, par exemple, comme Orpea. Vous allez me dire pourquoi Orpea. Vous savez, le scandale
des maisons de retraite,
des EHPAD. Ben, parce qu'on en avait beaucoup parlé dans la presse et parce qu'il y avait pas mal de petits malins qui se sont dit, oh là là, Orpea dégringole, vraiment, est vraiment au plus bas, ça va remonter. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Moi, j'en suis absolument pas certaine parce que quand on regarde les perspectives de la société, les comptes de la société, ces ratios d'endettement, on voit que les perspectives sont rarement bonnes. Alors effectivement, ça peut être volatile. Il y a des gens qui font des coups sur Orpea en vendant le bonjour, rachetant le lendemain, etc. Mais quand vous investissez en bon père de famille, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est notamment s'intéresser, comme le disait Jean-Marc Daniel, par exemple, à ces belles valeurs de rendement
qui ne sont pas forcément sexy,
mais qui distribuent régulièrement des dividendes, qui ont un vrai produit derrière, qui savent fabriquer ce qu'elles fabriquent, qui sont indispensables, qui participent à l'économie réelle. Ça, ce sont des belles valeurs.
Alors, justement, vous parliez de cette quête permanente du coût. Ah, il y a peut-être un coût à faire, etc. Eh bien, c'est là-dessus que prospèrent les arnaques. Les arnaques, c'est-à-dire cette impression qu'on va pouvoir gagner beaucoup d'argent sans trop prendre de risques. C'est des arnaques qui sont propulsées par les influenceurs, hein, qui vous font miroiter de l'argent facile. Et malheureusement, il y en a de plus en plus qui pullulent et qui incitent des jeunes à acheter des produits d'arnaque sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce sujet de Sophie Broyer, Laurent Desbois et Xavier Petit.
Ce sont des personnalités connues et influentes sur les réseaux sociaux qui, avec leurs promesses de gains importants, séduisent une nouvelle génération d'investisseurs prêts à se lancer dans la spéculation en ligne. Une vie rêvée à Dubaï. Des voitures et montres de luxe. Pour eux, tout est possible. Ces influenceurs la scènent chaque jour à leurs millions d'abonnés.
La guerre, l'inflation, les pénuries, bref, la conjoncture économique est catastrophique.
Qu'est-ce que t'attends ? En 2022, si tu fais pas d'argent avec ton téléphone, tu dors, réveille-toi.
J'ai fait plus de 4600 balles, presque 5000 balles, aujourd'hui, sans rien faire.
La recette de leur succès, disent-ils, le copy trading. Comprendre, copier à l'identique, les opérations financières d'un trader présenté comme professionnel.
On fait des copier-coller et on encaisse. On encaisse les miettes des vrais traders qui font, eux, des millions avec.
Bercés par une promesse d'argent facile, nombreux sont ceux qui ont cédé à la tentation. Comme Julia, 40 ans, qui en toute confiance se décide alors à placer 1000 euros l'an dernier.
Je ne m'attendais pas non plus à gagner des millions. Hein. C'était vraiment pour faire un petit resto en plus de temps en temps ou des sorties pour ma fille. Pour mettre un peu, comme on dit, du beurre dans les épinards.
Les premiers jours, la jeune femme enregistre des gains de 10 ou 20 euros. Mais très vite, ses investissements passent dans le rouge. Elle finit par tout perdre.
J'ai perdu quasiment 1000 euros. C'était de l'argent que j'avais de côté. Clairement, il n'est plus de côté. Je leur en veux parce que, clairement, ils m'ont manipulé. Ils m'ont pris mon argent. Enfin, je me sens ridicule.
Aux côtés d'une centaine d'internautes, Julia a l'intention de porter plainte contre X pour escroquerie et abus de confiance auprès du parquet de Paris. Et vous allez voir dans le détail comment cela fonctionne. Un influenceur vous invite d'abord à vous inscrire sur une plateforme de trading, d'investissement. Moyennant une mise de départ de 500 euros, vous entrez dans un groupe de discussion présenté comme VIP sur une messagerie cryptée. L'influenceur y publie en temps réel les opérations à effectuer. Quelles transactions ? Quand vendre ou acheter ? Avec quel volume ?
Je vous conseille vivement de prendre votre position. Vous perdrez moins de temps. Vous serez beaucoup plus proche du point d'entrée du trader.
8 fois sur 10, ces investissements sont perdants. Mais pas pour les influenceurs. Eux touchent des commissions à chaque fois que l'un de leurs abonnés s'inscrit sur l'une de ces plateformes. Et ils peuvent même prétendre à des bonus supplémentaires. L'autorité des marchés financiers dispose bien d'une liste noire de ces plateformes de trading. Mais elle rappelle que chaque investisseur est responsable des placements qu'il réalise en dehors du territoire français.
Marie-Christine Sonquin, vous avez des témoignages comme ça de jeunes qui se font avoir par cet argent facile dont on vous fait miroiter l'espoir sur Internet. Hein.
On n'a pas de témoignages directement. Moi, je vois ce que dit l'AMF, les plaintes
Il y a plus de sites ce matin. Il y avait davantage de sites d'arnaque au crédit, livret d'épargne en 2022 selon la CPR.
Voilà. Donc on a ces retours-là. On peut toujours s'étonner de la crédulité des gens qui sont attirés par des slogans tels que « vous allez gagner de l'argent sans rien faire ». Ça n'existe pas. Arrêtez de travailler et gagner de l'argent avec l'immobilier. Alors certes, on peut gagner de l'argent avec l'immobilier, mais ça demande des investissements sur le long terme, ça demande des crédits, ça demande un certain travail de gestion. Quand on vous explique que vous allez gagner de l'argent en 5 minutes en devenant trader du jour au lendemain ou après une pseudo-formation de 3 heures, mais il faut fuir à toutes jambes. C'est évident que c'est une arnaque. C'est absolument impossible. Et pourtant, ça continue de fonctionner. On n'arrête pas de lutter, notamment dans la presse, en faisant le relais des alertes des autorités, l'AMF, la CPR, qui alertent régulièrement sur ces sites qui sont des sites frauduleux. frauduleux ou qui sont en plus très souvent domiciliés à l'étranger. Donc quand vous avez perdu votre argent, vous n'avez généralement aucun recours. C'est vraiment déplorable.
Delphine Pasquier, il faut le dire, souvent on vous dit, t'as pas un coup fumant. En fait, l'argent facile, si ça rapporte beaucoup, c'est que c'est forcément très risqué. Plus ça rapporte, plus c'est risqué. C'est une loi universelle, on va dire.
Exactement. Plus ça rapporte, plus le potentiel de gain immédiat est important, plus la prise de risque est conséquente également. Donc effectivement, ça peut faire rêver d'entendre des potentiels de gains aussi importants. Là, en l'occurrence, dans ce que l'on a vu, ce qui est vraiment marquant, c'est qu'en réalité, il n'y a aucun conseil. On s'inscrit sur une plateforme, on va pouvoir passer des ordres de bourse, d'achat, de revente.
Oui, on vous raconte une belle histoire, tu vas pouvoir avoir accès au coût des meilleurs traders, il suffit de les recopier, vous voyez, il y a tout un environnement, on est sur un truc VIP.
Exactement, sauf que le trader, lui, c'est un spécialiste dans un domaine particulier, dans un contexte particulier. Il ne va pas se préoccuper finalement des préoccupations de l'investisseur final. Il n'a pas du tout les mêmes contraintes d'investissement et donc il peut se permettre des prises de risques qui ne sont pas du tout celles qui seraient acceptables pour tout un chacun.
Jean-Marc Daniel, qu'est-ce que ça vous inspire ce reportage? D'abord, est-ce que ça a toujours existé et tout le monde se fait un peu avoir? En ce moment, il y a la série Madoff qui passe. C'est quoi la série Madoff? C'était les mêmes techniques, mais pour les gens de la haute.
Oui, pour les gens de la haute et dans les années 80. C'est-à-dire que il y avait déjà chez Madoff le fait qu'ils maîtrisaient les nouvelles technologies, que
c'était un honneur
d'aller chez Madoff,
que de mettre son argent chez lui.
Voilà. Et alors il y avait les vieux ringards de Wall Street, les banquiers installés qui comprenaient rien, alors que lui, il avait saisi toutes les ruptures technologiques qu'il allait y avoir. L'information, le trading haute fréquence, etc. Mais ça remonte très longtemps. Moi, je cite souvent lorsqu'il y a eu la première grande spéculation dans l'histoire au XVIIIe siècle en Angleterre, qui était celle des compagnies des mers du Sud, Newton s'était fait avoir.
Alors, les compagnies des mers du Sud,
c'était une de la spéculation sur un certain nombre d'entreprises. Et Newton s'était fait avoir par une entreprise qui lui avait dit « Je ne peux pas vous dire ce que je fais parce que si je vous le dis, il va y avoir des concurrents ». Et donc, ça va faire baisser la valeur de l'action. Et donc, vous me donnez de l'argent, mais surtout, ne cherchez pas à savoir ce que je fais pour éviter que les concurrents ne puissent faire de l'espionnage industriel. Évidemment, tous les gens qui se sont fait avoir, les escrocs, ont récupéré un paquet d'argent et se sont tirés à Amsterdam. Et Newton a commenté en disant, moi, je peux calculer le mouvement des planètes. Je peux vous calculer tout un tas d'éléments en termes de calcul différentiel. Il n'y a qu'une chose que je ne peux pas mesurer, c'est d'un côté la naïveté des uns et d'autre côté la malhonnêteté des autres. Ah. Et donc, ça reste toujours d'actualité. Là, on a un nouvel exemple avec FTX.
C'est les bitcoins encore.
C'est les bitcoins. Donc là, de nouveau, on a arrêté quelqu'un. Donc pareil, c'est des gens, ils alignent des diplômes. Alors apparemment, sur FTX, ils avaient vraiment ces diplômes. Mais sur les influenceurs, ils sont tous docteurs en économie, master en mathématiques. Alors vous leur demandez de quelle université, c'est d'une université d'une ville qui n'existe même pas. Et puis donc, vous avez derrière tout ça, toute une fantasmagorie, toute une mise en scène. Donc effectivement, il y a les traders, il y a les VIP, tout ça. Et à la fin des fins, c'est des escroqueries banales.
Delphine Pasquier, il y a Warren Buffett, ce grand investisseur qui a fait fortune en achetant pas à pas comme ça des actions. Il dit cette chose toute bête. Alors, est-ce que c'est un bon conseil? Ne jamais acheter quelque chose qu'on ne comprend pas.
Tout à fait.
Hein, c'est-à-dire que lui, au début de la révolution Internet, les pèrenoël.fr, il disait « je ne comprends pas le business, je reste à l'écart ».
Exactement. C'est vrai que c'est important de bien savoir, de bien appréhender l'investissement qu'on a envie de faire. Voilà. Quand on sait quel est l'investissement, comment ça fonctionne, on aura conscience de la prise de risque que l'on prend et donc on sera capable d'accepter la perte et on sera d'autant plus ravi quand on réalise un gain.
D'accord. Mais on peut souvent se faire embobiner par des beaux parleurs. Y compris Newton, qui peuvent, avec une belle histoire, vous faire croire qu'il a trouvé la formule magique.
Par rapport à ce que l'on a vu avec les influenceurs, le principe du copier-coller, il existe quand même depuis un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les ETF, les trackers, qui sont des fonds finalement qui reproduisent un indice.
Ouais.
Et là, pour le coup, c'est relativement simple et on a une bonne visibilité. Quand on va investir sur ce type de fonds, eh bien, on sait qu'on aura la même performance ou quasiment que celle de l'indice 1.
De référence. Alors, le placement bon père de famille, ça existe. C'est beaucoup plus tranquille. On achète des actions Air Liquide dont on a parlé depuis tout à l'heure. Je vous propose de revoir ce reportage qui date de novembre 2021. Il n'a pas beaucoup changé. Sujet d'Olivier Poncelet.
C'est en prenant sa retraite que Marie-Claire Cohen a transformé son cochon tirelire en portefeuille d'actions.
J'ai Air Liquide, EDF, Engie, Hermès, L'Oréal, LVMH et Total.
En tout, 7 sociétés françaises auxquelles elle reste fidèle et elle ne le regrette pas.
Je vous donne l'exemple de Hermès, 1618.
Une action.
Une action en 2015, elle valait 230 euros.
Une belle plus-value sur 7 ans.
C'est multiplié par 7.
Alors je me dis, est-ce que j'y crois pas? J'y crois pas.
Alors, cette grand-mère s'informe régulièrement sur ses entreprises. D'ailleurs, ce jour-là, à la Bourse de Paris, l'une d'elles annonce des investissements dans l'hydrogène. En bonne actionnaire, Marie-Claire Cohen flaire une opportunité.
Pour les avions, les automobiles, on parle d'hydrogène, alors c'est une ouverture.
Donc si l'hydrogène, c'est l'avenir, cette société, ça peut vous rapporter?
J'espère.
Alors c'est surtout Air Liquide, j'imagine, hein, qui rassure une société qui a fait ses preuves et qui a la réputation plus de donner chaque année un petit dividende, quoi qu'il arrive, etc. Marie-Christine Sonquin, c'est elle finalement la gagnante de la bourse, c'est celle qu'on appelait autrefois la veuve de Carpentras.
Alors, en tout cas, toutes les valeurs qu'elle a citées sont des belles valeurs de fonds de portefeuille. Alors, je ne dis pas qu'il faille faire une copie du portefeuille de cette dame. Mais enfin, c'est l'exemple d'une actionnaire qui mise sur des valeurs solides qu'elle conserve sur le long terme. Je pense que c'est une
politique. Et là, on ne prend pas de risques.
Bien sûr que si, on prend des risques. Parce que la bourse, c'est aussi le reflet de l'activité des entreprises. Les entreprises, elles ont une vie. Elles débutent, elles trouvent de nouveaux produits. Elles ont du succès, après elles ont moins de succès. Il y a des événements internationaux aussi qui peuvent faire que la conjoncture sera plus ou moins favorable. Il y a le Covid qui arrive, donc ça va favoriser certaines entreprises, défavoriser d'autres.
D'accord.
Regardez, pendant le Covid, toutes les entreprises techno ont bondi, après elles se sont effondrées. Enfin, il y a toujours des tas d'événements qui font que les cours de la bourse évoluent et peuvent être volatiles, même pour de belles valeurs de fonds de portefeuille.
Alors, Delphine Passy, qui est comment fait-on face à ces yo-yo de la bourse pour rassurer un jeune qui aurait 20 ans, qui dirait, moi je vais me mettre en bourse parce qu'il paraît que sur le terme c'est ce qu'il y a de mieux, mais si quand je pars en retraite il y a un crack, j'aurai tout perdu. Est-ce qu'il y a des techniques que vous, les gérants de portefeuille, avez pour faire en sorte que rassurer ce jeune homme de 20 ans en lui disant non, quand tu auras 60 ans, on s'assurera que tu ne puisses pas tout perdre parce qu'il y aura eu un mauvais coup en bourse?
Alors il y a effectivement des bonnes techniques. Autant on va investir en bourse progressivement,
prendre
le temps de se positionner sur des valeurs, si possible de fonds de portefeuille, des valeurs stables, résilientes, quel que soit le contexte économique, eh bien, plus on avance en âge et plus on se rapproche de l'objectif que l'on s'est fixé, eh bien, plus on sera attentif à savoir prendre ses plus-values.
Ah, on sort de la bourse.
Tout à fait, progressivement.
Et on va sur des produits non risqués comme les emprunts d'État, quoi.
Exact. Alors, moins risqué, pas sans risque, mais moins risqué, effectivement. Ça nous permet, effectivement, de pouvoir avoir plus de latitude et d'avoir stabilisé son portefeuille pour disposer du capital dont on aura besoin à l'échéance qu'on s'est fixé.
Ça permet de ne pas avoir ces coups de Trafalgar, ces yo-yo en bourse. Jean-Marc Daniel, est-ce que le regard des Français sur la bourse a évolué? On se souvient, il y a 20 ans, de Lionel Jospin qui se vantait de ne jamais avoir acheté une action. C'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était l'époque où on associait volontiers bourse à licenciement, les licenciements boursiers, oui, chez Danone, chez Michelin, chez Carrefour. Est-ce que c'est toujours, je veux dire, la bourse, c'est mal, quoi. Et puis, à l'école, on nous apprend que ça avait le krach de 29 a débouché sur la Seconde Guerre mondiale.
Oui, absolument. Alors, l'image de marque de la bourse n'est pas très bonne dans l'opinion publique. Il y a eu des périodes, d'ailleurs, où il y avait plus d'actionnaires. Au moment où il y a eu les grandes vagues de privatisation, au milieu des années 80, puis ensuite dans les années 90, en fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient devenus actionnaires. Il y avait beaucoup de gens qui... Il y avait eu un vrai succès de ces privatisations.
France Télécom, EDF,
France Télécom, y compris Renault. Y compris des choses qui étaient comme TF1 et tout ça, qui étaient nouvellement privatisées, c'est-à-dire des choses qui n'avaient jamais été sur le marché auparavant. Et là, maintenant, quand on s'aperçoit d'abord que même ce qui a été privatisé, qui devait être solide dans le portefeuille de la dame, là, il y avait EDF.
EDF, ça n'a pas été dans l'issue.
C'est rentré à 32 euros, et là, l'État va racheter à 12 euros, et l'État clame qu'il fait un cadeau. aux gens qui ont encore de l'EDF. Et donc, il y a toujours la possibilité pour les gens qui ont encore des doutes sur la bourse de passer par un intermédiaire, par une banque. Donc, on a parlé de retraite. Les plans d'épargne retraite ont été organisés, réorganisés par la loi Pacte récemment. Et là, apparemment, c'est un succès. Il y a de plus en plus de gens. D'abord,
C'est la logique des fonds de pension américains.
C'est la logique des fonds de pension américains. On garde le système, c'est un système par répartition. Tous les discours qu'il y a autour de « il n'y aura plus d'argent pour payer vos retraites », la génération des 30 ans, pour eux, la retraite, ce sera un mot, mais ce ne sera pas une réalité. Et donc, on a une espèce d'envie d'aller voir ce qui se passe en bourse. Et ces produits-là, qui sont des produits où on n'est pas directement concerné, où la banque fait le travail à votre place, commencent à avoir un certain succès.
D'autant qu'à côté de la bourse, l'autre grand placement alors, pour lequel nous avons un attachement sentimental, c'est évidemment la pierre, l'immobilier. Sauf qu'on nous explique qu'après 25 ans de hausse, eh bien, le marché de l'immobilier serait en train de se retourner. En tous les cas, les prix baissent dans les grandes villes, on n'y est pas habitué. Est-ce qu'on est à l'aube d'un grand basculement sur le marché immobilier ? Sujet de Julien Bigard, Pascal Caron avec notre bureau de Lyon.
Sommes-nous à l'aube d'une chute du marché de l'immobilier ? Des prix en forte baisse dans les grandes villes, des appartements à prix cassés. Déjà en décembre, un recul dans plusieurs métropoles. Moins 0,9% à Paris sur un an, moins 1,1% à Nantes, plus important à Lyon, moins 1,7%. En plein cœur de la capitale des Gaules, exemple avec cet appartement. Un 3 pièces à 330 000 euros.
On est sur une rue très calme et puis on a le charme des poutres et qui pour le moment ne trouve pas preneur. Voilà, contrairement il y a 6 mois en arrière, où on aurait trouvé preneur en quelques semaines.
Aujourd'hui, aucune offre en 3 mois. Avec l'augmentation des taux d'intérêt, il y a moins d'acheteurs. Alors pour l'agent immobilier, il faut baisser le prix de 20 000 euros.
À 330, on n'a pas beaucoup de visites et non plus on n'a pas d'offres. Donc ça veut dire qu'on commence à avoir un réel décalage entre ce que les acquéreurs sont capables de mettre et les prix affichés. Donc il va falloir réajuster à la baisse au moins de 5-8%.
Des appartements parfois même bradés. Les passoires énergétiques. Depuis le 1er janvier, ces logements les plus énergivores, au nombre de 500 000, ont pour interdiction d'être reloués sans rénovation. Forcément, leur valeur s'effondre. C'est le cas de ce 40 mètres carrés à Paris.
Là, tu as du carton qui nous sépare de l'extérieur, tu vois.
À 344 800 euros, son prix a déjà baissé à 2 reprises.
Là, comme beaucoup de logements parisiens, cet appartement a un diagnostic qui n'est pas très bon. Et ça fait un petit peu peur aux acquéreurs qui savent qu'il va y avoir des travaux à prévoir.
C'est pour ça qu'il baisse de presque 30 000 euros.
Oui, c'est pour ça qu'il baisse de 30 000 euros, effectivement.
L'envolée des taux d'intérêt devrait accentuer cette situation. Car les acheteurs ont de plus en plus de mal à emprunter. Or, qui dit moins d'acheteurs, dit prix en baisse.
Il y a toutes les raisons de penser que ça va se poursuivre durant toute l'année 2023. Là, on pourrait atteindre rapidement des taux à 3% sur 20 ans. Et résultat, pour que les transactions se fassent, il faut que les vendeurs reviennent à la raison et acceptent de baisser le prix.
Selon des experts, la valeur des appartements pourrait chuter de plus de 5% l'an prochain.
Alors Marie-Christine Sonquin, qu'est-ce qui se passe sur le marché immobilier ? C'est un vrai retournement ? Parce qu'après tout, on peut se dire, on a toujours besoin de se loger, donc il y aura toujours des acheteurs.
C'est un vrai retournement de marché. Les taux d'intérêt, c'est un des facteurs extrêmement important pour expliquer les prix de l'immobilier.
Alors, on va aller voir ces taux. Ils étaient à 0% il y a un an. Maintenant, on est après, voilà, on le voit la courbe, on est à près de 3%.
Voilà, donc ça, c'est vraiment le facteur qui explique ce retournement. Et puis aussi, il faut dire que les prix avaient énormément monté ces dernières années. Quand on parle de la baisse des prix de l'immobilier à Paris, on est quand même au-dessus de 10 000 euros le mètre carré en moyenne. Donc, il faut, si vous baissez de quelques... Il y a un grignotage, hein, ça n'a même pas baissé de 1% pour l'instant. Enfin, et dans beaucoup de quartiers, quand vous regardez les annonces, ça reste quand même extrêmement élevé. Mais il est évident que la hausse des taux d'intérêt est un facteur qui va faire baisser les prix de l'immobilier, tout simplement parce que pour acheter votre appartement, vous allez devoir dépenser beaucoup plus d'argent. Et le pouvoir d'achat immobilier des Français est en baisse. Et en forte baisse. Alors qu'il avait cru ces dernières années, malgré la hausse des prix de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que corrélativement, vous aviez des taux d'intérêt qui baissaient, ce qui permettait aux personnes de largement compenser cette hausse des prix de l'immobilier. Alors de là à dire qu'il va y avoir un krach immobilier, je n'y crois pas. Justement, vous avez dit qu'on avait toujours besoin de se loger et vous avez des facteurs de soutien de ce marché immobilier. Reste que je suis convaincue que le mouvement de grignotage des prix qui a commencé dans les grandes villes en 2022 va se poursuivre et probablement s'accentuer en 2023.
Jean-Marc Daniel, les prix ont triplé dans les grandes villes au cours des 25 dernières années. Ils ne vont pas continuer à tripler au cours des 25 prochaines années. Il y a ce fameux adage, là, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ça vaut pour l'immobilier ?
Oui, ça vaut pour l'immobilier. Alors, il y a deux formes d'immobilier. Il y a l'immobilier de bureau et l'immobilier résidentiel. Et donc, on accède à l'immobilier de bureau par des intermédiaires. On est rarement propriétaire de bureau. Enfin, l'épargnant moyen de propriétaire.
Alors là, c'est plus pour se loger. C'est vraiment dans une logique de placement.
Dans une logique de placement qui est un peu la logique de l'épargnant. Mais alors, l'immobilier de bureau, il y a beaucoup de facteurs qui indiquent qu'effectivement, on est non seulement à un sommet, mais il peut y avoir des baisses assez significatives. Alors, tout le discours sur le télétravail commence à avoir des conséquences sur la vie quotidienne des entreprises qui cherchent à réduire effectivement les surfaces occupées. Sur l'immobilier résidentiel, d'abord, comme la hausse des taux d'intérêt n'est pas terminée, on le voit bien dans le débat, je ne sais pas si vous suivez ça, mais le débat autour du taux de l'usure. Les banquiers disent on ne peut pas prêter parce que à cause du taux de l'usure, on ne peut pas faire...
Qui limite le taux maximal. Le taux maximal.
Et ils disent... Et on ne peut pas prêter parce qu'à ce taux...
C'est hors la loi.
Si on va au-delà, c'est hors la loi. Si on va à ce taux-là,
on perd de l'argent.
En réalité, en pratique, quand vous regardez, c'est un mécanisme naturel. Comme les banquiers s'attendent à ce que les taux continuent à monter, ils ont intérêt à attendre un mois parce qu'ils pourront prêter à 4% plutôt qu'aujourd'hui où ils sont obligés de prêter à 3 ou 3,5%. Donc, ils vont regarder très finement les dossiers et ils vont dire non, celui-là, je ne prends pas, j'attends un peu et à ce moment-là, je pourrais le prendre à 4%. Donc, il y aura un effet qui sera un effet de retour sur le marché immobilier de gens qui empruntent beaucoup quand la stabilité des taux d'intérêt aura été acquise. C'est-à-dire quand on aura la conviction que cette fois-ci, on a un niveau de taux d'intérêt qui est relativement durable. Le dernier élément que je mettrai en avant, c'est que s'il y a du télétravail, les gens peuvent habiter plus loin. Et donc, on voit sur le marché lyonnais, par exemple, quand on regarde, on s'aperçoit que Saint-Étienne est une des villes où les taux...
Où l'immobilier remonte.
Oui, l'immobilier remonte le plus... Et donc,
les villes télétravaillables sont en train de monter.
Voilà. Bon, vous regardez Aix-en-Provence, Marseille, on atteint des sommets à Aix-en-Provence parce que les gens habitent à Aix-en-Provence et,
ils travaillent depuis chez eux.
Depuis chez eux à Aix-en-Provence et puis ils vont à Marseille quand on a besoin d'eux. Donc, il y a des coûts à faire encore sur des villes intermédiaires qui sont les villes clientes, entre guillemets, du télétravail des grandes métropoles. Alors, il y a des gens qui vous disent qu'il faut absolument aller investir à La Rochelle, parce qu'à La Rochelle, on est entre Nantes et Bordeaux, et donc le prix de l'immobilier dans ces deux villes, on l'a vu, à Nantes, ça a baissé, à Bordeaux, ça stagne, mais quand on sera à La Rochelle, on pourra aller dans les deux, en télétravail, avec des prix qui sont encore raisonnables.
Delphine Pasquier, c'est vrai que notre génération, on avait tendance à se dire, bon, bah, pour épargner, c'est pas compliqué, t'achètes un appart à 20 ans, et puis, quand tu seras à la retraite, tu auras fini de le rembourser, ce sera jackpot assuré. Est-ce que c'est c'est plus un bon conseil, ça, de se dire ça ?
Si, ça reste une bonne stratégie. L'immobilier, c'est un investissement de long terme. Donc, effectivement, même si on achète un petit peu plus cher aujourd'hui, en empruntant, eh bien, on capitalise et à terme, on pourra se loger gratuitement, entre guillemets, il n'y aura plus que les charges courantes d'un logement sans avoir de loyer à payer.
Donc,
ça reste une bonne stratégie.
Foncière.
Et la taxe foncière qui reste malgré tout et qui a tendance effectivement à augmenter et à compenser la suppression de la taxe d'habitation. Bon. Mais ça reste une bonne stratégie. C'est vrai que l'immobilier, finalement, il y a de tout dans l'immobilier. C'est aussi un marché cyclique, comme les actions, avec certes...
On l'avait oublié, hein. Les actions, on sait que ça fait ça. L'immobilier, on a l'impression que ça ne faisait que monter.
Ce sont des cycles plus longs. Mais il existe quand même ces cycles. On a connu des grandes crises de l'immobilier dans les années 80. 2008 a été aussi un événement assez fort en matière d'immobilier. Donc ça reste un marché cyclique. Mais dans l'immobilier, il y a plusieurs catégories d'immobilier. L'immobilier résidentiel, d'habitation, l'immobilier de bureau, l'immobilier professionnel, qui peut être aussi un petit peu plus résilient vis-à-vis de l'inflation parce que les loyers sont indexés sur l'inflation. Donc voilà, même si les valeurs sont là encore, eh bien... on a deux items qu'il faut regarder, c'est le potentiel de plus-value, mais également le rendement. Exactement comme une action de fonds de portefeuille qui va verser un dividende très régulièrement, eh bien, on a de l'immobilier qui, en termes de plus-value, aura un potentiel peut-être beaucoup plus faible, mais qui, en termes de rendement, aura peut-être plus de stabilité.
Marie-Christine Sonquin, on a néanmoins l'impression que le marché immobilier est rattrapé par la crise environnementale entre les normes d'isolation, les fissures. La Banque des Territoires dit qu'il y a plus de 10 millions de logements qui sont potentiellement exposés, vous savez, à ce sol argileux qui fait qu'il y a un gonflement, rétractation, qui crée des fissures. Voilà, on voit c'est le site de la Banque des Territoires qui dit ça.
Oui, tout à fait. C'est un risque auquel il faut s'intéresser, mais il y en a d'autres aussi. Il y a celui de la montée des eaux quand on achète en bord de mer, qui n'est pas tellement pris en compte actuellement.
Les agents immobiliers sont obligés maintenant de le spécifier, ce risque.
Ils sont certes obligés de le spécifier, mais quand on voit les prix qu'ont atteint ces maisons en bord de mer, on peut dire que les acheteurs n'ont absolument pas du tout tenu compte de ce type de risque. Et on voit aussi d'ailleurs qu'il y a plusieurs marchés de l'immobilier, parce que quand on s'intéresse au segment de l'immobilier de luxe, on voit que c'est absolument pas touché par ce problème de hausse des taux. L'immobilier de luxe continue à très bien se porter. Il y a toujours des transactions à des prix stratosphériques. Donc il y a vraiment plusieurs segments immobiliers. Quand l'argent était gratuit, eh bien les prix des actifs immobiliers ont grimpé tous, partout, pour des biens de qualité, des biens de moins bonne qualité. Et là, actuellement, avec ce retournement de marché, eh bien, il y a certains biens qui vont rester quand même assez résilients parce qu'ils vont être bien placés, parce qu'il y a une demande locative importante, et puis d'autres, au contraire, qui vont voir leur valeur s'effondrer.
En tous les cas, on voit comment cette remontée des taux est en train de perturber notre façon d'épargner, puisqu'évidemment, on a plus envie de placer sur des produits taux, comme on dit, comme le livret A qui rapporte plus, et un peu moins sur l'immobilier ou sur la bourse qui, au contraire, elle souffre de cette remontée des taux d'intérêt. Voilà ce qu'on pouvait dire au terme de cette émission sur l'épargne. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée et à demain pour un nouvel Info C'est Clair.